Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonsoir, il est quasiment 21h, soyez les bienvenus. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Ça se dispute, une heure de débat avec les grands thèmes du jour ou de la semaine, avec à ma droite Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction du Boulevard Voltaire, soyez la bienvenue.
Merci.
À ma gauche, Philippe Guibert, ancien directeur du service d'information du gouvernement.
Bonsoir Thierry.
Bonsoir Philippe. Allez, on va commencer tout de suite par le sujet de cette fin d'année et qui sera sans doute... Peut-être que vous n'êtes pas d'accord, mais je pense que ça sera sans doute le sujet du début 2024, la loi immigration. Et ce sondage Odoxa Blackbone Consulting pour le Figaro, avec ce chiffre, près de 7 Français sur 10 sont satisfaits du contenu de la loi immigration. Je vous détaille très rapidement avec 3 questions et 3 réponses. La première question, êtes-vous satisfait du contenu de la loi immigration? 68% satisfait, 32% pas satisfait. Gabriel Cluzel.
Ce que nous montre ce sondage, c'est le hiatus entre ce que pensent les Français et ce que pensent et l'espèce d'agitation suscitée par la gauche, comme si c'était le retour des heures les plus sombres de notre histoire. Vous savez, Gérald Darmanin a utilisé une expression amusante. Il a dit on voit la différence entre le monde médiatico-politique et le pays réel. Alors vous savez qu'il a fait un petit passage par l'Action française, c'était une expression de Charles Maurras, mais de fait, le pays réel, c'est le bon peuple français.
Les vrais gens sont dans le nord pour lui.
qui voulait que l'on parle d'immigration. Alors, on peut simplement, une seconde, commenter ce sondage. Ils sont contents, mais se rendent-ils compte que c'est quand même une tempête dans un verre d'eau, parce que dans le même temps, au Parlement européen, eh bien, on votait un pacte migration et asile, qui en réalité impose, et se fiche éperdement de ce qui se passe au Parlement français, d'accueillir à minima 30 000 demandeurs d'asile par an ou de payer 20 000 euros par demandeur d'asile non accueilli, ce qui, on le voit, est loin de régler nos problèmes d'immigration. On ne va pas s'en sortir avec cette loi-là, quand bien même elle ne serait pas érodée par le Conseil constitutionnel.
Alors Philippe, je tourne vers vous. Il y a un vrai décalage. C'est vrai, la raison, Gabriel Cluzel. Ça, vous pouvez être d'accord avec Gabriel là-dessus. Il y a un vrai décalage entre la perception que les Français ont et puis la réalité et puis cette guerre et ce conflit du monde politique.
La démesure du débat politique.
La démesure.
Parce que, pour reprendre Charles Maurras, qui n'est pas vraiment ma référence préférée, loin de là, il opposait le pays légal et le pays réel. Mais le pays légal, les institutions, le Parlement ont voté cette loi. Donc il n'y a pas de décalage pour le coup entre le pays légal et le pays réel, pour reprendre cette distinction.
On parlera des départements plutôt de gauche qui disent qu'on n'en veut pas. Mais enfin, je vous laisse terminer.
Il y a un décalage plutôt avec le commentaire politico-médiatique, plutôt qu'avec nos institutions. Qu'est-ce que disent ces sondages, celui-ci comme les autres qui ont été réalisés? Ils disent qu'à chaque fois qu'il y a une mesure de durcissement sur l'immigration ou qui paraît comme tel, les Français sont pour à une très large majorité qui oscille entre 70 et 80%. Et d'ailleurs, dans tous les sondages qui étaient faits, dont celui-ci, où on soumet les principales mesures, enfin celles qui ont été les plus retenues au jugement des sondés, on obtient 70 à 80% d'approbation. Et donc la conclusion que j'en tire, ce n'est pas forcément que les Français mesurent la portée effective de ces dispositions. Et là, je suis assez d'accord avec Gabriel. Je ne pense pas qu'elle aura une portée. Il y a des choses, à mes yeux, positives dans cette loi, notamment pour faciliter certaines exclusions du territoire. Mais je ne suis pas sûr que cette loi va changer la face des choses en matière de flux migratoires qui sont grandissants et qui vont l'être dans les années qui viennent. Mais ce qui me frappe politiquement, c'est que la gauche s'est mise dans une sorte de corner hyper minoritaire.
Ah oui, c'est bon qu'on puisse dire.
qu'elle tient sur ce sujet, comme si la gauche, à la différence de sa pratique gouvernementale, qu'il m'est arrivé de connaître de près.
De très près même.
La gauche était dans une position où on doit accueillir tout le monde. Mmh. Et que toute mesure qui vise à restreindre ou à expulser du territoire des personnes qui n'ont rien à y faire parce qu'elles ont commis des crimes ou des délits, cela choquait. Et du coup, ce qui m'embête beaucoup, c'est que plutôt que d'avoir un discours et des propositions qui soient réalistes et qui quand même entendent ce que dit l'opinion de façon répétée de sondage après sondage, c'est-à-dire que l'opinion est inquiète de cette pression migratoire, excusez-moi, la gauche se met dans un corner qui va la rendre encore plus minoritaire et l'éloigne encore plus d'une perspective de revenir un jour au pouvoir de façon proche. Voilà, je trouve que pour le débat politique, pour le débat démocratique, c'est dommage qu'on ait une scène politique aussi déséquilibrée, avec un côté un pan entier de la vie politique qui finalement se met dans une posture hyper minoritaire et qu'elle se met comme si elle refusait de comprendre ce que les Français veulent exprimer, qui ne se résume évidemment pas à la xénophobie et à du racisme. Et donc la gauche ne veut pas faire l'effort de comprendre pourquoi les Français sont plus que réticents à cette pression migratoire qui est grandissante.
Allez, on continue à égrener un peu ce sondage. Et justement, résultat, pour qui le vote de cette loi est-il plutôt un succès? En 1, Marine Le Pen, 55%, Éric Ciotti, 41%, Gérald Darmanin, 28%, Emmanuel Macron, 25%, Jean-Luc Mélenchon, 8%. Gabriel.
Non, mais c'est évidemment l'heure de la droite.
C'est l'heure de la droite.
Ça, nous sommes d'accord. Et c'est vrai que Marine Le Pen et le Rassemblement national
même
ont toujours
Libère est d'accord.
Labouré sur le thème de l'immigration, donc qui est aujourd'hui au centre du débat, avec un champ sémantique qui a été aussi imposé par la droite. Alors Marine Le Pen apparaît comme le vainqueur, donc ça veut dire que son discours a porté, parce que c'est vrai que les LR sont fondés à dire qu'ils étaient les plus nombreux au Sénat et qu'ils
participer
à l'élaboration de ce qui a été voté. Mais néanmoins, la marque Le Pen, la marque Rassemblement National, c'est évidemment l'immigration. Donc c'est pour cela qu'elle sort victorieuse. Mais si la gauche, moi je vais rebondir aux propos de Philippe Guibert, si la gauche est complètement cornérisée, c'est qu'elle le veut bien. Parce qu'il fut un temps où pour la gauche, le mot frontière n'était pas un gros mot. Il fut un temps avant le Front Populaire où la gauche...
Même après.
Si vous le dites, vous connaissez ça mieux que moi, ne trouvez pas que la préférence
nationale... Vous n'allez pas être d'accord sur tout durant toute l'émission,
quand même. Vous allez voir tout à l'heure.
Je vous rappelle que l'émission s'appelle « Ça se dispute ».
J'ai essayé de contester.
Ou alors...
C'est parce que c'est elle qui a bougé et qu'elle s'est détachée du peuple. En réalité, elle a changé de prolétariat. Elle a un prolétariat de substitution aujourd'hui. Elle considère que le damné de la terre, c'est le migrant. Et donc, le petit peuple français est maintenant considéré par elle comme des petits bourgeois. Elle ne veut plus s'en occuper. Et c'est ainsi qu'elle se retrouve tout à fait déconnectée des préoccupations des Français.
C'est exactement ça.
Vous n'êtes pas du même avis.
La gauche, notamment Mélenchon, pour prendre la gauche dominante d'aujourd'hui, même si à mon avis elle ne sera pas très longtemps dominante, la gauche électrique.
Si elle continue comme ça,
au sein de la gauche, je veux dire, on verra aux européennes. Elle considère que on doit réunir tous les milieux populaires originaires de l'immigration ou originaires ou pas originaires de l'immigration sur des thèmes économiques et sociaux. Et que pour le reste, il faut accueillir tout le monde, effectivement, et que tout ça forme un seul peuple, sur la base d'intérêts économiques et sociaux. C'est-à-dire qu'il néglige complètement le fait qu'il puisse y avoir des oppositions au sein de ce peuple, et des oppositions qui peuvent être culturelles en particulier, qui sont importantes. Et du coup, ça fait un prolétariat de substitution, comme vous dites, mais qui est légèrement moins important, comme on a pu le constater dans les résultats électoraux de la gauche ces dernières années. Là où je nuancerai un peu ce que vous avez dit, c'est que c'est un énorme hold-up de la part de Marine Le Pen et du Rassemblement National. Ils sont pour rien dans cette loi. Et contrairement à ce qui a été dit, abusivement par la gauche et parfois par certains macronistes qui ont eu mauvaise conscience et qui du coup ont gâché complètement une victoire politique, parce qu'objectivement, c'est une victoire politique pour l'exécutif d'avoir fini par faire voter une loi sur ce sujet, alors qu'il y a 15 jours, 2 mois, 3 mois, on ne donnait pas cher du vote d'une loi à l'immigration. Tout le monde a contribué à permettre à Marine Le Pen de faire ce hold-up, parce qu'elle n'est absolument pour rien dans cette loi. Elle n'y a absolument pas contribué dans sa rédaction, mais même sur les principales mesures, c'est très éloigné de son programme. On a dit à tort que cette loi instaurait de la priorité nationale ou de la préférence nationale. En réalité, c'est du durcissement de règles qui existaient déjà, avec une distinction qui est introduite dans la loi entre les étrangers qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. C'est la novation de la loi. Mais c'est pas la préférence nationale qui est mise en œuvre dans ce texte de loi. Et le drame, je trouve, pour la politique française, pas simplement pour la gauche, aussi pour le centre et puis pour, y compris pour les Républicains qui, eux, ont contribué beaucoup à ce texte de loi, c'est que on vote une loi qui donne le sentiment qu'elle est plus dure contre l'immigration et c'est Marine Le Pen qui en profite. Alors je rends hommage au talent de communicant, de communicante même, de Marine Le Pen, mais je trouve que les autres partis politiques, les autres familles politiques ont parfois un peu trop contribué à ce succès qui n'est absolument pas mérité et qui ressemble vraiment à hold-up.
Gabriel, vous n'êtes pas d'accord.
Le succès de Marine Le Pen, il n'est pas tant dans cette loi qui, vous avez raison, n'est pas du tout à l'égal de ce qu'elle pouvait prôner durant sa campagne. Hein. C'est une montagne qui accouche une souris, vu du côté de l'électorat du Rassemblement national. C'est pas tant cela qui fait son succès que le fait qu'elle ait réussi à imposer ce thème de façon majoritaire. Écoutez, ça fait des dizaines d'années. Pardon, mais qui parlait d'immigration à part
la droite,
le Front
même
National
la gauche à une époque.
Écoutez, je pense que tous ceux qui nous regardent peuvent quand même en convenir, même ceux qui n'apprécient pas Jean-Marie Le Pen. Le premier à avoir parlé de cette question-là, c'est Jean-Marie Le Pen. Donc, évidemment, le Rassemblement National, qui est l'héritier du Front National, ramasse, si j'ose dire, la mise, parce que en ce moment, les Français conviennent qu'elle a réussi à imposer ce thème qui était jusque-là ultra diabolisé. Vous parliez d'immigration, vous disiez il y a peut-être un peu trop d'immigrés dans ce pays. On vous disait, vous êtes raciste. Pardon, on nous a parlé de l'immigration, une chance pour la France, pendant des dizaines d'années. Je vois d'ailleurs que le discours a évolué. On est passé de l'immigration, c'est une chance pour la France, à l'immigration, c'est compliqué, mais on ne peut plus rien faire, ce qui est quand même passablement inquiétant. Par ailleurs, je voulais revenir à votre analyse sur la gauche.
Oui, mais il faut que je vous réponde.
Oui, mais je vous laisse vous répondre.
Vous aurez le temps de répondre.
La gauche, quand même, devrait se demander comment elle arrive à cheminer main dans la main avec le MEDEF. L'extrême gauche, ça lui pose visiblement aucun problème. Vous me disiez, vous savez, vous disiez tout à l'heure, ils veulent rassembler deux électorats populaires, pas spécialement l'électorat de substitution. Mais pardon, c'est quand même un enfant de CM1 est capable de se rendre compte que le gâteau France n'est pas infini. Je vous parle même pas de culture, parce que vous avez raison sur ce point. Faire fi de la culture, c'est dramatique. Mais même sur le plan économique, c'était un non-sens. À un moment, la France ne peut pas... Le gâteau France, si j'ose dire, pour parler cyniquement, ne peut pas servir au monde entier. Donc, nécessairement, c'était utopique d'imaginer d'accueillir le monde entier. Et ça allait nuire aux Français et aux Français les plus modestes.
Je vous accorde le point.
Réponse de Philippe Guibert.
Le dernier aspect que vous avez développé, de cette alliance très bizarre entre ces mesures de régularisation qui ont été demandées par le MEDEF et la gauche qui est à fond pour et qui en voudrait même plus. Et il est évident que le patronat utilise les migrants comme une pression à la baisse sur les salaires et les conditions de travail, ce qui n'est pas vraiment un objectif de gauche. Là-dessus, d'accord. En revanche, là où je suis en désaccord avec vous, c'est de dire que seul le Rassemblement National et avant le FN auraient parlé de l'immigration. C'est tout à fait faux. C'est vrai que le FN arrive à faire une percée électorale dans les années 80 avec le moteur de l'immigration. Mais la droite et même la gauche, je vous rappelle qu'il y a un certain François Mitterrand, parlait de seuil de tolérance à propos de l'immigration dans les années 80. Je vous rappelle qu'en 1984, Laurent Fabius, à l'époque Premier ministre, dit le FN pose de bonnes questions, mais apporte de mauvaises réponses. Il est inimaginable qu'une personnalité de gauche dise ça aujourd'hui. Même si je pense que sur le fond, c'est assez bien vu ce qu'avait dit Laurent Fabius. Donc, il y a eu des lois Pasqua, il y a eu, souvenez-vous de Nicolas Sarkozy en 2007, vous avez oublié Nicolas Sarkozy, Gabriel. Donc, non, l'immigration n'est pas la question de l'immigration n'est surtout pas la propriété du Rassemblement National. C'est ce que voudrait faire croire Marine Le Pen, Ça marche dans l'opinion, mais on n'est pas obligé d'oublier 40 ans d'histoire politique et de faire mine de croire que seule Marine Le Pen s'est préoccupée des problèmes que pouvait poser l'immigration. Elle ne fait pas que poser des problèmes, elle peut aussi, dans certains cas, être une chance. Moi, je pense aux étudiants, je pense dans certains secteurs du travail. Et puis, effectivement, il y a des grosses questions sur le droit d'asile et sur surtout l'abus du droit d'asile. Et puis, il y a aussi des abus sur le regroupement familial. Donc, il faut avoir un discours nuancé sur l'immigration, de mon point de vue.
Alors, pour poursuivre le débat et avancer un petit peu, illustration de cette incompréhension à gauche. À gauche, dis bien Philippe, ce sont les 32 départements de gauche qui ont annoncé qu'ils n'appliqueraient pas certaines mesures de cette loi immigration. Est-ce que c'est possible ou pas ? Ça va être compliqué.
Non, ce qui est surtout presque risible, c'est de voir ces départements se prendre pour des Jean Moulin au petit pied.
Parce qu'on parle avec Hidalgo,
qui est en résistance. Oui, mais il n'y a pas qu'elle. Alors déjà, il est très intéressant de découvrir que c'est les départements, personne ne connaît, vous connaissez vous le nom du président des conseils.
Non, mais ils sont comparés sur l'aide sociale.
Ce que je trouve intéressant, c'est que souvent, on se désintéresse des élections départementales, régionales, on l'a vu du reste du dernier scrutin, et les gens ont tort, parce que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de personnalité charismatique qui représente, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'incarnation que c'est ce qu'on a appelé des millefeuilles administratifs n'a pas énormément de prérogatives. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a des départements de gauche qui ont décidé de faire une forme de sécession qui va coûter cher, qui peut potentiellement coûter cher à ses administrés. Donc c'est pas neutre, hein. C'est pas un monsieur qui se lève comme ça et qui dit moi tout seul je veux pas faire ceci ou cela. Il engage tous ses administrés et donc il a décidé qu'il s'élèverait contre cette loi. Ça montre quand même là aussi la faiblesse de nos institutions. Vous savez, on a le sentiment aujourd'hui que notre pays est en train de s'effondrer comme un château de cartes, que tout est extrêmement faible, toutes les institutions. Ben là il y a même des, vous savez, c'est comme du temps de la royauté. Les féodaux se sentaient pousser des ailes sous la fronde, etc. Ils se disaient waouh, quand le pouvoir est faible, c'est le moment nous de jouer notre partition. Ben on a les conseils départementaux qui s'élèvent et qui frondent. Ça en dit long quand même de l'état de notre pays.
Et c'est terrible, c'est de ne pas prendre conscience également de la volonté, ce qu'on évoquait au début de cette émission. De cette volonté des Français de voir cette loi. Et là, il y a 32 départements, ils disent hop, 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 non, on n'en veut pas.
Oui, mais
donc,
ça,
on ne respecte pas.
Oui, mais Thierry et Gabriel, tout ça, de la communication.
Et oui, mais quand même, c'est un message qu'on envoie.
Nous sommes dans un pays centralisé. Nous ne sommes pas dans un pays fédéral où les États fédérés, les départements ou régions feraient la loi dans leur coin. Et donc, dans un pays centralisé, les collectivités locales, régions, départements ou agglomérations et villes ou villages ne font pas, sont soumis à un contrôle de légalité a posteriori. Et donc on peut contester leurs décisions devant le juge et la préfecture a des pouvoirs pour contester les décisions des collectivités locales qui ne sont pas libres de prendre les décisions qu'elles souhaitent.
C'est un peu la question que je posais à Gabriel.
Et qui sont obligés de respecter la loi. Et donc si au-delà de cette prise de position qui me paraît relever de la posture politique, il y a des velléités d'aller un peu plus loin dans des délibérations des conseils départementaux ou autres, ça sera très vite bloqué par la préfecture ou par la justice, par de multiples recours, parce que les collectivités locales ne peuvent pas remettre en cause la loi par leur délibération. C'est les règles du jeu dans notre pays. On est certes décentralisé, mais on n'est pas un pays fédéral. On reste un pays unitaire, centralisé, où la loi est la même pour tous et où elle est décidée par le Parlement et pas par les collectivités locales. Donc c'est une posture de communication politique.
Et vous comprenez pourquoi je disais au début de cette émission qu'on n'a pas fini d'en parler, et notamment en 2024. Allez, on va parler d'Anne Hidalgo, évidemment, parce qu'elle, quasiment, elle rentre en résistance. En substance, elle a même dit, nous rentrons en résistance, mais à mon avis, est-ce qu'elle ne se trompe pas un peu de débat ? On pense, résistance, ça veut dire quelque chose en France. On pense à Jean Moulin, on pense à Guy Boquet, à Chateaubriand, vous connaissez évidemment, cher Philippe, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu un décalage par rapport à ça ? D'ailleurs, je vous propose de l'écouter parce qu'elle s'est encore exprimée ce matin à Paris sur le sujet. On l'écoute et je vous fais réagir.
Avec d'autres collectivités, nous allons, parce que nous en avons la possibilité, faire ce que l'on appelle une contribution ouverte au Conseil constitutionnel. c'est-à-dire que nous allons saisir, dans le cadre d'une contribution ouverte, avec d'autres collectivités avec lesquelles nous sommes en train de discuter, nous allons saisir le Conseil constitutionnel pour faire invalider les dispositions qui sont contraires à la Constitution et à tous les textes fondateurs.
Terre de résistance démocratique et humaniste, disait Anne Hidalgo.
On rentre dans l'argutie juridique avec Anne Hidalgo, parce que justement, comme elle sait qu'elle ne peut pas faire une délibération du Conseil de Paris qui serait contraire à la loi, parce qu'elle se ferait retoquer à un moment ou un autre cette délibération, elle utilise une saisine du Conseil constitutionnel. Mais bon, là aussi, c'est de la communication, parce que le texte de loi a déjà été différé au Conseil constitutionnel. Et ça, c'est un moment important. Je ne sais pas, je pense qu'ils rendront leur décision au mois de janvier. Enfin, je n'ai pas exactement suivi le calendrier, mais je doute qu'ils rendent leur décision là, entre Noël et puis le 1er janvier. Et donc, le Conseil constitutionnel aura déjà retoqué des dispositions qui seraient à retoquer, on ne sait pas dans quelle mesure et dans quel nombre et lesquelles exactement seraient susceptibles d'être retoquées. Donc là aussi, c'est un discours de communication politique qui est fait pour faire plaisir à ses militants et à ses électeurs les plus fidèles. Mais ça relève de la communication politique et je prends un petit pari qu'après les fêtes et à la mi-janvier, on n'entendra plus tellement parler de ces initiatives diverses des conseils départementaux, puisque Paris n'est pas simplement une ville, c'est aussi un département.
Et c'est un département. Faut pas l'oublier.
C'est ça qu'elle, c'est à ce titre
bien sûr
qu'elle s'exprime. Hein.
Yeah, oui, elle faisait.
Non, mais elle s'aime bien dans le rôle de la passionnariat qui rentre en résistance, une espèce de Che Guevara. Je trouve ça merveilleux, mais évidemment, c'est grotesque et c'est d'autant plus grotesque venant d'elle que Paris est une ville qui aujourd'hui est réservée aux Parisiens. S'il y a une préférence, pas nationale, mais municipale, c'est bien à Paris. Bah, écoutez, pardon, mais on a plus, les banlieusards ne peuvent plus y aller, ils n'ont plus le droit d'y aller en voiture. Bon, le tarif résidentiel, c'est pas elle qui l'a institué.
C'est vrai que vous n'habitez pas dans Paris même.
Mais oui, je suis une banlieusarde.
Comme ça, je suis tranquille.
Vous dire que nous nous sentons exclus de Paris. Notamment les femmes, vous savez, on parle beaucoup d'insécurité, qui préfèrent prendre leur voiture plutôt que d'aller dans les transports en commun. Bah, écoutez, avec Anne Hidalgo, c'est plus possible. Là, je voyais que sur les mobilités douces, elle propose des aides financières, vous savez, les vélos électriques, etc. Je peux vous assurer que c'est réservé aux Parisiens. Donc, qu'elle fait de la préférence municipale. Donc, elle pourrait le comprendre à l'échelon national.
Et
écoutez, c'est les mêmes solidarités naturelles, puisqu'elles aiment le mot solidarité. C'est normal que la mère patrie favorise ses enfants, et c'est normal que quand on est dans une mairie, qu'on paie des impôts locaux, eh bien, on ait le droit à quelques prérogatives. Si tout se vaut, moi, je ne vais pas arriver à Londres en disant je suis une londonienne
c'est
comme les autres.
Égalité de contribution. Égalité de droits.
On peut avoir un débat sur la préférence nationale. C'est que il n'y a pas que les cotisations à la sécurité sociale. Vous voyez, la mère, encore une fois, dans le mot mère patrie, il y a le mot mère. Bah, votre mère, elle vous aime plus que les autres et vous, vous l'aimez plus que les autres.
Oui,
si on veut.
Attendez,
je vais juste.
Oui, je vous en prie.
Veut que les Français aiment la France, il faut que la France aime les Français. Il y a encore des soldats qui meurent pour la France. Comment peuvent-ils entendre de la part de leur pays, la préférence nationale, c'est pas possible. Vous valez les uns comme les autres. Voyez, on parlait de résistance. Il y a des résistants qui sont morts pour maintenir nos frontières, pour que la France reste.
C'est pour ça que c'est pas le même combat. C'est pour ça que je l'évoquais.
Écoutez, c'est quand même un peu surprenant qu'aujourd'hui ces choses-là soient indicibles. Nos ancêtres se sont battus pour que les frontières restent, pour que oui, il y a une préférence nationale de fait, parce que la France aime ses enfants. Est-ce que c'est un gros mot ou est-ce qu'il faut arrêter de fleurir les monuments le 11 novembre? Vous voyez,
tout cela est assez évident.
Vous en faites
beaucoup,
pourquoi j'en fais pas beaucoup, parce que quand on fait un sondage pour demander aux Français ce qu'ils pensent de la préférence nationale, bah assez naturellement, à 71%, ils répondent qu'ils sont pour. Mais parce que c'est normal qu'il y ait une préférence nationale dans chaque pays. Sinon, ça sert à quoi d'être français, sénégalais, anglais? C'est quelque chose d'assez évident. Sauf visiblement pour Anne Hidalgo et ses comparses.
Alors, si vous voulez répondre, vous avez 14 secondes à peu près.
Vous mélangez beaucoup de choses qui n'ont pas grand-chose à voir. la principale préférence nationale qui existe dans tous les pays, c'est que les nationaux sont des citoyens et ont le droit de vote. Alors ça a été étendu pour les européennes avec les citoyens européens. Mais donc vous êtes français, vous avez le droit de vote, vous avez le droit de participer à la décision collective. La solidarité sociale, c'est autre chose.
Ah, c'est
fondé sur...
C'est
non, c'est pas tout.
C'est maigre.
Ben non, c'est pas tout, parce qu'effectivement, vous êtes soldat, effectivement, vous êtes, sauf dans la Légion étrangère, merci aux étrangers qui viennent dans la Légion étrangère.
Vous savez que les soldats meurent quelquefois pour aller chercher des Français.
Je sais bien, mais la solidarité sociale, c'est autre chose. C'est des cotisations et des prestations. Et donc, si vous cotisez, même si vous êtes étranger, par définition, vous êtes légalement installé en France en tant qu'étranger, bah, vous avez le droit aux mêmes prestations. C'est un principe d'égalité inscrit dans notre constitution et dans la devise de notre république. Liberté, égalité, fraternité. Si après, vous pouvez me répondre.
Peut-être après, mais on va marquer une pause, si vous me l'accordez. Vous me l'accordez ?
Oh oui.
C'est possible ? La petite musique, on se retrouve dans quelques instants, ça se dispute. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Il est 21h30, merci de nous accueillir chez vous, c'est ça se dispute jusqu'à 22h avec Gabriel Cluzel et Philippe Guibert, mais tout de suite on fait un point sur l'information, et l'information ce soir est incarnée par Mathieu Devez. Bonsoir mon cher Mathieu.
Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Un millier de manifestants contre la loi immigration à Paris, au cas par cas on n'en veut pas, régularisation de tous les sans-papiers. Voici donc les slogans scandés par les manifestants. Ils se sont élancés vers 16h30 de la place de la République pour rejoindre la place du Châtelet. Un rassemblement à l'appel de collectifs de sans-papiers et de la marche des solidarités. Un avion transportant 303 passagers indiens est bloqué depuis hier à l'aéroport de Vatry, c'est dans la Marne. Le parquet de Paris a ouvert une enquête en raison de soupçons de traite d'êtres humains. L'avion devait relier les Émirats arabes unis au Nicaragua et on apprend ce soir que deux passagers ont été placés en garde à vue. Enfin, le Conseil de sécurité de l'ONU exige une aide humanitaire à grande échelle à Gaza. L'objectif est notamment d'acheminer du carburant, de la nourriture et du matériel médical sur tout le territoire. Et malgré la pression internationale, le texte n'appelle pas à un cessez-le-feu dont ne voulaient pas les Américains.
Merci beaucoup mon cher Mathieu. Allez, on poursuit le débat et on termine le débat sur la loi immigration. Vous souhaitiez apporter la réponse et la contradiction à notre ami Philippe Guibert. Et voilà.
Je peux juste simplement faire une petite remarque sur les manifestations. Je suis quand même toujours assez surprise de voir des gens dans l'illégalité venir manifester. Pardon, mais je me dis que ça en dit long quand même sur la faiblesse de notre État. Quand on est illégal, en général, on ne va pas se faire remarquer, en principe.
Ça, non, c'est fait.
Voilà, non mais voilà, c'est quelque chose qui me semble être de bon sens. Non, je voulais simplement dire sur la question de la préférence nationale en matière de logement, par exemple, puisque vous parliez de prestations sociales et à Paris. Pourquoi, moi je vous renvoie à l'excellent livre de Christophe Guillouis, pourquoi, là, sur la France périphérique, pourquoi Paris s'est vidé de ses classes moyennes? Parce que ces gens qui n'arrivent pas à se loger à Paris ne sont pas ceux qui ont les ressources les plus basses. Parce que forcément, un migrant arrivé de la veille avec rien du tout aura forcément des ressources plus basses, c'est arithmétique, que le plus pauvre des Français. Donc c'est à lui que qu'on va donner des logements sociaux. Donc les Français se retrouvent exclus de la plupart des logements sociaux pour ces raisons-là, parce qu'il n'y a pas de possibilité de préférence nationale dans ce domaine. Donc c'est un sentiment de frustration extrêmement fort. Il faut en parler avec les gens qui ont vécu ça. Donc ils se retrouvent très éloignés et en lointaine banlieue. Ça éloigne aussi du marché du travail. Il faut se rendre compte que c'est pas seulement le confort d'être dans une grande ville. C'est qu'on va plus travailler de la même façon en centre-ville. Donc tous ces Français sont quand même fondés à se dire c'est bizarre dans notre pays, mécaniquement, on donne la priorité à des étrangers.
Juste très rapidement, vous avez raison sur un point sur le logement social, où effectivement il y a un nombre important de Français qui auraient le niveau de revenu pour accéder au logement social. Et il y a une concurrence importante qui explique beaucoup le ressenti des Français par rapport à l'immigration. Didier Lesky aussi en a parlé beaucoup dans ses différentes prises de position. C'est le directeur de l'Office français des migrations. Je suis pas sûr que ce soit par la préférence nationale qu'on va résoudre ça. On va résoudre ça en faisant baisser la pression migratoire, qui objectivement, par rapport à nos capacités d'intégration, est trop importante. Je veux dire, c'est 300 000 titres de séjour, je crois, en 2021 ou 2022. Ouais. Non, de titres séjour légaux. C'est excessif par rapport à ce que la France peut accueillir. Voilà. Parce que c'est pas le tout d'accueillir des gens. Il faut avoir des capacités d'intégration puis d'assimilation. Et que là, la machine est très nettement grippée. Et donc, à un moment donné, il faut être réaliste par rapport à nos capacités d'accueil, d'intégration et d'assimilation.
Les amis, on referme ce chapitre sur l'immigration qu'on ouvrira évidemment en 2024. Je vais vous inviter à prendre la direction de Marseille. Pourquoi Marseille? Parce qu'on va encore parler de Marseille, gangrénée par la trafic de drogue. Et je voudrais vous faire réagir tous les deux sur les derniers chiffres qui viennent de tomber, qui sont juste catastrophiques. On voit ça avec Mathilde Couvillère-Fleurnoy. Et je vous fais réagir juste après.
L'heure est à la constatation pour Marseille qui dresse un bilan provisoire lié au narco-banditisme. En 2023, 47 personnes ont été tuées, dont 7 mineurs et 118 personnes ont été blessées. C'est un triste record par rapport à l'année 2022 qui comptait une totalité de 33 victimes. Parmi les mises en cause, on constate de plus en plus de jeunes.
Un très très fort rajeunissement des mises en cause. Et avec un deuxième point, ils sont jeunes et logiquement, ils ne sont pas très fortement encore ancrés dans la criminalité. Et pourtant, ils sont poursuivis pour avoir commis l'irréparable.
Sur la totalité des mises en cause, 11% sont mineurs et 51% ont entre 18 et 21 ans. Selon Rudy Mana, porte-parole nationale d'Alliance Police, c'est l'appât du gain qui attire ces jeunes délinquants.
Les 5 plus gros réseaux de trafic à Marseille rapportent entre 50 000 et 80 000 euros par jour. Vous imaginez comme ça peut attirer la convoitise de ces jeunes qui sont en déshérence, qui sont en déscolarisation et qui pensent que rentrer dans le trafic de stupes va leur apporter des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros.
Le narco-banditisme a fait également 4 victimes collatérales dans la cité phocéenne, dont la jeune Sokaina tuée dans sa chambre en septembre dernier.
Gabriel, je commence par vous. C'est terrible ce qui se passe à Marseille, parce qu'on ne peut pas dire qu'à Marseille, on n'ait pas mis les moyens. Il y a eu beaucoup d'argent. Et le constat, il est toujours le même.
Oui, on a
ça ne bouge pas, ça ne change pas.
On a déployé d'énormes moyens financiers en tout genre, mais on n'a pas déployé la volonté politique suffisante. Et j'entends souvent dire, ah ben, vous savez, le trafic de drogue, on peut rien faire, regardez ce qui s'est passé en Colombie. Quand vous interrogez des forces de l'ordre, qu'ils soient gendarmes dans les zones rurales ou enfin périurbaines et ou les policiers, ils vous disent on a encore les moyens de faire quelque chose, mais le problème c'est qu'il faut une volonté politique extrêmement forte. Et ils expliquent, attention, à pas se faire embarquer dans cette espèce de discours défaitiste consistant à dire, bah, puisqu'on n'arrive à rien faire, autant légaliser parce que on ne s'en sort plus. Parce qu'ils nous disent, ça permet quand même de contenir une forme de contagion. Tout ce qu'ils font, on a l'impression qu'ils n'arrivent à rien. Si, ils arrivent quand même à contenir la contagion entre trois populations qui, pour le moment, n'ont pas encore fait la jonction, parce qu'il me dit sinon on aurait vu des kalachnikovs dans les mains des émeutiers au mois de juin, c'est-à-dire la drogue et puis les émeutiers et les islamistes. Enfin, il y a des jonctions qui sont faites ponctuellement, mais il n'y a pas de jonction complète. Voilà. Donc ils disent que pour ces questions-là, au-delà même de la question précise de la drogue, il ne faut pas lâcher sur ce terrain.
Philippe Guibert. Qu'est-ce qu'on peut faire à Marseille?
D'abord, premier point, c'est
j'ai l'impression
un doublement.
Qu'on fait toujours le même débat sur Marseille et que les choses ne changent pas.
Oui, mais Marseille, c'est une loupe, enfin, c'est un effet de loupe grossissante par rapport à ce qui se passe dans le fond du pays. Marseille, c'est la France multipliée par 2 ou 3 en termes de drogue. D'abord, c'est le double de personnes tuées dans ces règlements de compte entre mafias locales. Qu'en 2019, donc ça fait 3-4 ans,
les jeunes qui sont...
on a doublé le nombre de morts, et vous avez raison, ce sont des morts de plus en plus jeunes, puisque ce sont de plus en plus les petites mains des trafics de drogue, qui vont gagner en étant chouf 3000 euros par mois, ce qui est inaccessible pour eux, parce que pour la plupart du temps, ils sont sortis du système scolaire, qui sont des revenus absolument inaccessibles pour eux, même longtemps après le début de leur carrière. Donc, on a un développement exponentiel du trafic de drogue, pas simplement à Marseille, pas simplement dans les grandes villes, maintenant de plus en plus dans les villes moyennes et même dans les petites villes et en milieu rural. Que faut-il faire? On est dans une guerre face à des mafias. C'est ça l'enjeu. Je suis pas sûr que ça soit la volonté politique qui manque. Je pense qu'elle est forte du côté du ministère de l'Intérieur. Le problème est de savoir si Seule la réponse sécuritaire qui est indispensable et judiciaire, qui est indispensable aussi, va suffire à mettre fin à ce pouvoir tentaculaire des trafics de drogue. Je pense qu'il faudra qu'on ait une approche d'abord sur l'argent de la drogue, parce que quand on gagne autant d'argent, il faut le blanchir et taper au portefeuille. Et souvent, dans l'histoire de la lutte contre les mafias, que ce soit aux États-Unis ou en Italie, le fait de taper au portefeuille de ces mafias, et notamment de lutter contre l'argent sale, a souvent été un élément tout à fait essentiel. Mmh. Et donc je pense que là, il faut mettre plus de moyens. Je sais qu'à Marseille, l'État a mis des moyens, mais c'est à l'évidence insuffisant, compte tenu de l'ampleur du marché. Et puis ensuite, il faudra enfin qu'on en fasse non pas un sujet de faits divers, mais un vrai sujet de société, et qu'on soit capable de mener contre les drogues, y compris le cannabis, ce qu'on a fait par rapport au tabac et par rapport à l'alcool. On a réussi une mobilisation dans ce pays, qui est parfois d'ailleurs assez autoritaire hein, vis-à-vis du fumeur, je parle en tant que victime ici, qui fait que vraiment il y a la pression sociale s'est complètement retournée contre les fumeurs. Et on n'a pas fait la même chose sur la drogue. Et pourquoi l'État ne fait pas la même chose sur la drogue? Tout simplement parce que la drogue est illicite, est illégale. Et donc, toutes les campagnes qui ont été menées depuis 20 ans, 30 ans, contre les cigarettes, contre l'alcool, on ne les mène pas. Et on ne mobilise pas la société de la même façon, au nom du prétexte totalement fallacieux, que ce sont des produits, effectivement, illégaux. Mais ce sont des produits illégaux. La France est le premier consommateur d'Europe de cannabis, et je crois qu'en matière de cocaïne, on doit être dans les tout premiers. Et donc, à un moment donné, il faudra qu'on mobilise la société contre ces fléaux. Je pense que le débat sur la légalisation est dépassé, compte tenu justement de l'ampleur du marché. Mais il faudra quand même mobiliser la société contre ces fléaux. Voilà.
Un dernier mot sur le sujet.
Mais vous disiez, c'est pas un manque de volonté politique. Le ministre de l'Intérieur est assez ferme. Vous aurez remarqué que le gouvernement n'est pas composé que du seul ministère de l'Intérieur.
Ça ne m'a pas échappé.
En revanche, du côté de la justice, on peut se poser de sérieuses questions sur sa fermeté dans ce domaine. Par ailleurs, vous dites, il n'y a pas eu les mêmes campagnes. C'est vrai, vous avez raison que pour le tabac. Mais moi, je crois qu'il y a eu une forme de complaisance pendant de nombreuses années sur les drogues parce que ça avait un côté festif auprès de certaines élites.
Dans le microcosme parisien.
Oui, voilà, oui, mais le microcosme parisien, ce sont nos élites, ce sont eux qui mènent le jeu. Donc je pense que ça a beaucoup joué. Et par ailleurs, ce sujet-là aussi s'hybride avec celui de l'immigration. On craint de stigmatiser des familles, on craint de pénétrer dans certaines banlieues et d'y mettre le feu, virtuellement. On craint un certain nombre de conséquences connexes. Et par ailleurs, vous le savez très bien, il y a un sujet aussi, il y a l'immigration, ne serait-ce que parce que quand il n'y a pas de frontières, eh bien les circuits de la drogue arrivent plus rapidement. Les jeunes migrants sont vite enrôlés, hein, c'est très facile. Quand vous ne savez pas comment gagner de l'argent, c'est quelque chose de facile. D'ailleurs, on veut faire toujours preuve de mansuétude à l'endroit des migrants. C'est pas leur provenir, c'est pas souhaitable pour eux de faire ce genre de boulot. Et pourtant, c'est exactement ce qui se passe. Et la meilleure preuve que les deux sujets sont liés, c'est que vous disiez autrefois, ça touchait que Marseille, qui était la tête de pont, maintenant ça touche les petites zones rurales. Eh bien, ça suit la progression de l'immigration.
Non, la demande, elle n'est pas le fait de l'immigration.
Ah, c'est différent. Je vous parle
de je trouve que dans cette affaire, de tout mettre sur le dos de l'immigration, le fait est qu'on a une société française qui consomme beaucoup de drogue. Et ça, c'est pas l'immigration.
Je pense que c'est les petits scouts versaillais qui sont à la tête des réseaux de mafia, je crois pas, moi.
Oh, vous savez, les petits scouts marseillais, versaillais.
Non, mais...
Versaillais.
Attention.
Passé un certain âge.
Ce que je veux dire, c'est que
je voudrais excusez-moi, Gabriel. Il y a plein de sujets sur lesquels on peut parler de l'immigration et où ça pose des questions et des problèmes. Mais la demande de drogue en France, c'est vraiment pas l'immigration.
Donc je il faut se poser la demande.
Donc il faut quand même. Pardon, je voudrais terminer. Il faudra quand même surtout déjà se poser la question pourquoi il y a une telle consommation de drogue dans notre pays et une consommation qui se fait chez les jeunes, même si c'est pas chez les plus jeunes qu'elle est la plus forte, mais je me souviens plus des chiffres, entre 25 ans et 45 ans, on a un maximum de consommation de drogue sur le cannabis, mais aussi sur la cocaïne et sur d'autres drogues. Donc là, on a un sujet de société, c'est pour ça que je dis que mobiliser la société, vous savez, aussi pourquoi on n'a pas fait toutes ces campagnes contre les drogues. Parce que le ministère de la Santé, comme tous les ministères de la Santé européens et des démocraties occidentales, sont mobilisés, ces ministères de la Santé, contre ce qui provoque des morts. Or, on a considéré que la drogue ne provoquait pas de morts. Or, de fait, effectivement, le cannabis ne provoque pas de décès, en tout cas de décès rapides ou de décès aussi importants que le tabac. Et donc on a considéré que ce n'était pas une cause de santé publique aussi importante que l'alcool et le tabac. Et je pense que c'est une énorme erreur, parce que du point de vue psychosanitaire, pour des gamins à l'école, à l'université et même dans le travail qui peuvent consommer des drogues, c'est un sujet psychosanitaire et donc un sujet social considérable. Et puis il suffit de demander à des parents qui ont des gamins qui sont tombés dans la grande dépendance pour savoir à quel point c'est extrêmement compliqué d'en sortir et à quel point ça peut gâcher une vie d'être dépendant à la drogue. Donc, l'aspect sécuritaire, je n'ai rien contre, bien au contraire, mais il faudra aussi une dimension sociale et sanitaire si on veut y arriver.
Allez les amis, j'aimerais, parce que l'horloge tourne très vite et le temps passe vite, j'aimerais qu'on termine par deux monstres sacrés du cinéma français. On va pas parler de cinéma. Gérard Depardieu, Brigitte Bardot. Commençons par Gérard Depardieu. Évidemment, c'est devenu une véritable affaire d'État après le documentaire, le reportage. On est chez nos amis de France Télévisions. La défense, Emmanuel Macron, qui est devenu l'avocat de Gérard Depardieu. Tout le monde a son mot à dire, évidemment. Je sais pas, dans les dîners, dans les déjeuners, c'est le sujet, l'un des sujets numéro un. Et Carole Bouquet a réagi hier chez nos amis de Quotidien sur TMC avec des mots assez virulents. J'ai un vrai problème avec ce qui est en train de se passer avec Gérard en ce moment. J'ai peur pour lui. Ce tribunal médiatique continue. Ça fait des mois que ça dure et c'est en train de tuer un homme. Je ne peux pas le supporter. Je n'ai aucune tendresse possible pour quelqu'un qui se révélerait être un monstre. Mais ce n'est pas le cas de Gérard. Avis à tous les deux. Quel est votre ressenti? Il est déjà condamné avant l'heure. Et c'est ça le problème de fond aussi.
Oui, oui, c'est vrai que vous avez raison. Il y a la question de la présomption d'innocence qui est mise à mal dans toute cette affaire. Donc ce sera plus facile d'en parler ensuite. Là, c'est toujours très dérangeant de tirer sur l'ambulance. Maintenant, moi, je ne prendrai pas une défense inconditionnelle de Gérard Depardieu. Et je crois simplement que le mouvement qui s'est emparé de cette affaire, plutôt féministe, est un retour de balancier et sans doute d'une certaine façon justifié d'une société libertaire débridée à laquelle appartenait Gérard Depardieu, qui a cru que finalement les femmes c'était open bar. Et vous savez, mai 68, hein, c'était les garçons qui voulaient aller dans le dortoir des filles, pas l'inverse. Après, on a dit que c'était une révolution féminine, que ça avait libéré les femmes. Qui a été le plus libéré? En ce moment, il y a quelques paroles de femmes de cette époque-là qui d'ailleurs commencent à le dire en se demandant si elles ne se sont pas fait rouler. Ce que je dirais du féminisme, c'est que deux points. Le premier, c'est qu'il est tardif et sélectif. Tardif parce que Gérard Depardieu, c'est les valseuses. Alors vous allez me dire, faut séparer l'homme de l'œuvre, mais lui-même a dit, moi je suis Jean-Claude dans les valseuses. Il l'a dit clairement. Et vous savez, dans les valseuses, il y a quand même une adolescente de 16 ans qui se fait déflorer, peut-on dire, on peut dire cela ainsi, par le héros. Là, c'est joué par Isabelle Huppert à l'époque. Visiblement, personne n'avait trouvé à redire, ou en tout cas, on avait trouvé à redire, mais on avait quand même trouvé que c'était un film merveilleux. Et ceux qui trouvaient à redire, bah, c'était un peu des bonnets de nuit et des phases de carême. Donc c'est vrai que c'est étonnant que personne ne s'en soit saisi à ce moment-là et qu'aujourd'hui les féministes ne fassent pas la généalogie. Vous savez, elles battent leur coulpe sur la poitrine des autres sans arrêt, mais elles ne font pas leur propre cancel culture. Les féministes, Beauvoir, Benoît Groult, etc., je ne les ai pas vus s'élever contre ça. Et dernier point, je cède la parole. Le sélectif, parce que elle s'élève contre Gérard Depardieu, n'ont pas de mots assez durs pour Gérard Depardieu. En revanche, sur les viols du 7 octobre, elles ont une discrétion de violette. Sur la jeune fille Claire qui a été violée par un centrafricain qu'on a vu témoigner, c'est pareil, le violeur ne doit pas leur convenir, donc elles ne disent rien non plus. Donc il y a un moment, il faut avoir une honnêteté complète.
Et dans les valseuses, c'est Miu Miu, si je m'abuse.
Je crois que Miu Miu joue, mais elle joue Marie-Ange.
Ah oui, c'est là.
Voilà.
Bon, je suis désolé. Philippe Guibert, rapidement, parce que je voulais qu'on parle de Brigitte Bardot, rapidement.
Il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit, et je ne vais pas reprendre la généalogie de mai 68, ni des valseuses, qui est quand même un grand film.
Très vulgaire.
Et j'en profite. Non, je suis pas d'accord avec vous.
Bon, moi, je la trouve insupportable.
Bon, on va pas débattre sur les valseuses, mais sur.
Mon premier point, c'était.
Sur Gérard Depardieu.
Quel que soit le jugement qu'on a sur Gérard Depardieu et sa grossièreté, qu'on ne découvre pas complètement, je trouve extrêmement gênant qu'on en vienne à mettre en cause ses films. Moi, j'ai lu qu'on envisageait de ne plus diffuser ses films. Oui. Gabrielle ne veut plus diffuser Les Valseuses.
Non.
Là, je m'élève.
Non, elle n'a pas dit
profonde.
Ça. Pour la défense de Gabrielle, elle n'a pas dit ça. Elle a dit qu'elle n'aimait pas le film, mais elle n'a pas dit ça.
On n'est pas obligé, mais voilà. L'important, c'est quand même un très grand acteur. C'est un de nos plus grands acteurs, et le plus grand acteur vivant, sans doute, français, qui a la plus grande filmographie. Donc d'abord, protégeons les œuvres. Et je ne veux pas entendre parler de gens qui voudraient qu'on ne diffuse pas les films où joue Gérard Depardieu, parce que Gérard Depardieu a eu des comportements que, par ailleurs, on n'est pas obligé, effectivement, là je vous rejoins, d'apprécier.
Ou de cautionner.
Et encore moins de cautionner. Deuxième point, le complément d'enquête, l'émission, a fait authentifier par huissier que la séquence vidéo qu'a contesté Emmanuel Macron,
problème.
Mais que d'autres ont contesté aussi, et même moi aussi j'avais un doute là-dessus, ils ont fait authentifier qu'elle était tout à fait réelle et qu'il n'y avait pas de confusion possible. Donc ça confirme le caractère, enfin là on est au-delà de la grossièreté, de la vulgarité, dans les propos de Gérard Depardieu. Voilà, pour le reste, sur l'aspect judiciaire, eh ben, on va laisser la justice faire son travail.
Exactement.
Et donc il va falloir, je le crains, séparer l'œuvre de l'homme. Mais ne touchons pas à l'œuvre.
Deux mots rapides, on n'a pas beaucoup de temps, sur Brigitte Bardot, chez nos confrères de Valeurs Actuelles.
C'est beaucoup plus drôle.
Ah, la France est foutue. Deux mots, mais vous n'avez pas beaucoup de temps. Hein. Gabriel.
Non, mais Brigitte Bardot, ça a toujours été une femme libre. Donc, elle a choqué dans sa jeunesse parce qu'elle était assez transgressive. Eh bien, elle choque aujourd'hui parce qu'elle est toujours libre. Elle est toujours aussi transgressive.
Et là, ça décoiffe.
Elle avait accordé un entretien de Boulevard Voltaire qui était assez sévère aussi.
Moi, j'ai bien aimé le pape Branquignol. J'ai éclaté derrière. Bon, après, elle a un discours. Je pense que Pascal a trouvé son maître ou sa maîtresse, notre ami Pascal Pro.
Et on salue Brigitte Bardot parce qu'elle regarde beaucoup.
C'est pour ça que je dis ça, et en particulier l'émission de Pascal. Et donc, moi j'aime beaucoup Brigitte Bardot, je ne suis pas du tout d'accord avec une bonne partie de ce qu'elle dit, mais ça n'a aucune importance. Elle a incarné, puisque vous parliez de cette génération, elle a incarné la libération sexuelle de la femme. Hein. Dans les années 60, encore plus que dans les années 70, elle a incarné un changement de statut et de liberté personnelle.
C'est intéressant de la faire parler de ce sujet-là, avec le recul.
Ouais, mais je ne sais pas si aujourd'hui, elle a toujours le souvenir de ce qu'elle a incarné aussi dans sa jeunesse, et qui m'a paru extrêmement positif.
Eh bien, écoutez, pas été positif pour la
vous savez que le temps passe très vite dans cette émission, hein. Je ne me suis pas rendu compte, mais une heure,
c'est
court.
On a déjà terminé.
Hein. Merci en tous les cas.
Gabriel a beaucoup trop parlé.
Gabriel. Merci Philippe. Je salue notre ami Lionel Rousseau, qui est en vacances, le petit vénard. Je remercie Saïd, Romain Goglin, Jules Vitet. À la réalisation, c'était Anouk. Au son, c'était Jeff. Vous pouvez évidemment revivre ce débat ô combien animé sur notre site cnews.fr. Tout de suite, c'est l'ami Olivier Carenfleck avec Soir Info. Moi, je vous dis... Je vous dis à demain, à demain à 12h. Je serai là pour Mini News Weekend. Passez une très belle soirée avec l'ami Olivier. Bye bye.
Merci Thierry.
Merci à vous deux.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.